Mes grands-parents habitaient un village où pratiquement tout le monde était superstitieux. Enfin, je me souviens d'avoir vu quelqu'un changer de trottoir pour éviter de passer devant une certaine maison. Je demande donc à ma grand-mère pourquoi, et j'apprends que la veille, quelqu'un y est décédé. C'est bizarre, ça. Je ne savais pas qu'on pouvait attraper la mort comme un coup de froid ou un rhume, simplement en passant devant la maison d'un défunt. Je continue maintenant de lire dans le chapitre 18 de l'Apocalypse. En voyant monter la fumée de la ville embrasée, ils, les rois de la terre, se tiendront à bonne distance de peur d'être atteints par ces tourments. Malheur, malheur, gémiront-ils. La grande ville, ô Babylone, ville puissante, une heure a suffi pour l'exécution de ton jugement. L'apôtre Jean rapporte trois lamentations, et chacune commence par la même plainte. Malheur, malheur, la grande ville. Les trois groupes de personnes qui se lamentent sont les rois, les marchands et les marins. Et ils se plaignent à répétition de la même litanie que la grande cité dont la force résidait dans sa richesse, elle a été anéantie brusquement. Et tout le monde se tient éloigné de la ville enfumée comme si elle était atteinte de la gale et que son triste sort est une maladie contagieuse transmissible si on se trouve à proximité. Ces détails montrent bien que Babylone est une vraie ville en dur et pas un symbole. Je continue. Les marchands de la terre aussi pleurent et mènent deuil sur elle, car il n'y a plus personne pour acheter leurs marchandises. Avec la destruction de Babylone, toutes les transactions économiques sont désormais au point mort. Ce qui, bien sûr, afflige ceux qui s'enrichissent de ces activités. Ici, Jean emprunte en partie à l'oracle du prophète Ézéchiel contre la ville de Tyr. Et dans les versets 12-13 du chapitre 18, il fait une liste d'environ 30 sortes ou catégories de marchandises qui font la richesse de Babylone. Et ce ne sont que des produits de luxe, car on n'y trouve pas un pantalon de travail ou une chemise en coton ou des pots d'argile. Le texte mentionne les cargaisons d'or, d'argent, de pierres précieuses et de perles qui ne se trouvent que chez les joailliers. Puis on va dans les magasins pour dames où sont les étoffes de fin lin, de pourpre, de soie et d'écarlate. Dans la boutique cadeau, on peut acheter leur bois aromatique et leur bibelot d'ivoire, tous les objets en bois précieux, en bronze, en fer et en marbre. Sur le marché des épices, on trouve la cannelle et autres épices. Au rayon parfumerie, les parfums, la myrrhe et l'encens. Puis dans les épiceries fines, on peut acheter le vin et l'huile, la farine et le froment. Dans les boucheries, on se procure les ovins et bovins. Enfin, sur le parc animalier, on a d'une part les chevaux et les chariots. Et d'autre part, les corps et âmes d'hommes, c'est-à-dire les esclaves. Jean utilise peut-être cette expression tirée du prophète Ézéchiel pour dire l'horreur qu'il ressent devant un système brutal qui écrase à la fois l'âme et le corps de l'homme. Babylone est comme un gigantesque bazar où tout se vend et tout s'achète. Tout ce qu'on peut désirer se trouve quelque part sur un étalage, y compris des esclaves, surtout des travailleuses du sexe, j'imagine. Figurez-vous qu'aujourd'hui, l'industrie du sexe représente à elle seule 15% du produit national brut de la Thaïlande. Je continue le texte. Les objets de tes passions ont fui bien loin de toi. Raffinement et splendeur sont perdus pour toi. Plus jamais on ne les retrouvera. Les hommes d'affaires continuent à se lamenter parce que la destruction de la capitale de l'Antichrist met un point final à tout semblant de normalité sur la planète dévastée. Cette fois-ci, toutes les activités économiques cessent définitivement. En grec, plus jamais on ne les retrouvera. Et la traduction d'une affirmation doublement négative et qui veut dire jamais plus, non, plus jamais. En d'autres mots, tous les produits de luxe sont perdus à tout jamais et on ne les trouvera plus où que ce soit. C'est bel et bien fini. Je continue. Les marchands qui s'étaient enrichis par leur commerce avec elle se tiendront à bonne distance de peur d'être atteints par ces tourments. Ils pleureront et mèneront deuil. Ils diront « quel malheur la grande ville qui se drapait de Finlande, de pourpre et d'écarlate, parée de bijoux, d'heures et de pierres précieuses et de perles !» Les marchands désespérés répètent à leur compte ce que les rois ont déjà dit. Ils se lamentent, non pas en pâtie avec la ville en ruine, mais parce que leur portefeuille en a pris un coup. Et rude, car dorénavant, ils sont privés de revenus. Les marchands n'ont plus que les yeux pour pleurer et leurs lamentations pour continuer dans le séjour des morts pendant l'éternité. Ce qui leur arrive est un avertissement pour ceux qui échangent les richesses de ce monde contre leur âme. D'ailleurs, Marc rapporte que, un jour, Jésus pose cette question qui est plutôt une déclaration. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Je continue le texte.
Top.
En une heure, tant de richesses ont été réduites à néant. Tous les capitaines des bateaux et leur personnel, les marins et tous ceux qui vivent du trafic sur mer se tenaient aussi à bonne distance et se répandaient en cris à la vue de la fumée qui montait de la ville embrasée, disant « Quelle ville pouvait rivaliser avec la grande cité ?» Après les dirigeants du monde et des hommes d'affaires, ce sont les matelots qui se joignent au cortège mortuaire de Babylone et qui entonnent un hymne funèbre en son honneur. Les marins sont chargés des échanges et de la distribution des richesses sur terre, tout comme les Phéniciens dans le monde antique. Ayant tout perdu, ils ont de bonnes raisons de se lamenter. Précédemment, les arrogants, pleins d'admiration devant l'Antichrist et sa capitale, demandaient « Qui est semblable à la bête ? Qui peut combattre contre elle ? Quelle ville peut rivaliser avec la grande cité ?» Eh bien, devant les ruines fumantes de Babylone, ils ont la réponse. Je continue le texte. Les marins se jetaient de la poussière sur la tête. Ils criaient, pleuraient et se lamentaient. Malheur, malheur à la grande ville dont la prospérité avait enrichi tous les armateurs des mers. En une heure, elle a été réduite à néant. Je me demande ce que j'éprouverais si un jour, en rentrant d'un voyage quelconque, je trouvais un tas de cendres fumantes à la place de notre maison. Dans l'Ancien Testament, se jeter de la poussière sur la tête ainsi que de s'asseoir ou se rouler dans la cendre, déchirer ses vêtements ou encore se vêtir de toile de sac sont des gestes symboliques du deuil, de la consternation et d'une très vive douleur, surtout morale. Les marins se lamentent exactement comme les rois et les marchands. Toutes ces personnes se frappent la poitrine, mais ce n'est pas un signe de repentance. Personne n'est affligé à cause de ses fautes, non. C'est l'anéantissement total et quasi instantané de Babylone, ainsi que les affaires perdues et le manque à gagner qui sont les raisons de cette détresse. Je continue. Réjouis-toi de sa ruine, ciel, et vous, croyants, apôtres et prophètes, réjouissez-vous, car en la jugeant, Dieu vous a fait justice. Brusque changement de décor et l'atmosphère. Le contraste ne pourrait pas être plus marqué, car d'un seul coup, on se trouve dans les cieux où des cris de joie fusent de toutes parts. Croyants, apôtres et prophètes représentent l'Église qui, depuis son enlèvement, se trouve dans les cieux. L'ange qui parle est probablement celui qui a exhorté les croyants de quitter la ville avant sa construction. Dieu fait triompher sa justice et sa sainteté, qui jusqu'à là étaient violées et voilées aux yeux des hommes par tous les désordres engendrés par le péché. C'est sa justice et non pas la souffrance des gens sur terre qui est la source des réjouissances des habitants du ciel. Surtout que la fin de Babylone va accélérer les derniers événements de la tribulation. On imagine que les militaires se préparent et confèrent déjà pour la grande kermesse. La campagne d'Armageddon, qui sera brève, est suivie de l'exaltation de Jésus-Christ par l'anéantissement de tous ses ennemis et l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Le ciel anticipe donc la venue du roi des rois et se réjouit d'avance. Plus loin, Jean écrit « J'entendis dans le ciel comme la voix puissante d'une foule immense qui disait « Alléluia, loué soit notre Dieu, c'est à lui qu'appartiennent le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Ses jugements sont vrais et justes, car il a condamné la grande prostituée qui corrompait la terre par ses débauches, et lui a fait rendre compte du sang des serviteurs de Dieu répandu par sa main. » Je continue le texte. « Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grosse meule et la jeta dans la mer en disant « Ainsi, avec la même violence, sera précipitée Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. » Tous les enfants aiment jeter des cailloux dans l'eau à cause du son « plouf » qu'ils produisent. C'est un peu comme ça que s'achève l'histoire de Babylone depuis la célèbre tour de Babel. Ici, nous avons droit à la visite d'un troisième ange puissant, à moins qu'il s'agisse de l'un des deux précédents. Au lieu de faire un dessin, c'est par une démonstration pratique et dramatique qu'il montre à quoi ressemble la fin de Babylone. Dans ce but, il prend une meule dont on se sert pour broyer le blé. Il mesure au moins 1,2 m de diamètre sur 30 cm d'épaisseur. J'ai calculé que cette meule en calcaire pèse la bagatelle de 900 kilos. Il n'est donc pas étonnant que Jean précise que cet ange est super musclé. L'image que cet être céleste communique est empruntée à la fin de la prophétie de Jérémie. Je lis le passage. Jérémie avait mis par écrit dans un seul livre tous les malheurs qui devaient s'abattre sur Babylone, c'est-à-dire tout ce qui a été écrit à son sujet. Jérémie dit à Siria, le chef de camp, « Quand tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles. Puis tu diras, « Éternel, c'est toi-même qui as parlé de détruire ce lieu-ci, pour que personne n'y habite plus, ni homme, ni bête, mais qu'il devienne pour toujours un désert. Quand tu auras terminé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le lanceras au milieu de l'Euphrate en disant « Ainsi sombrera Babylone et elle ne se lèvera plus du malheur que je vais lui envoyer et ses habitants disparaîtront. » Je continue le texte. « Ah, Babylone, on n'entendra plus chez toi la musique des harpistes et des chanteurs, ni flûte, ni trompette ne résonnera plus dans tes murs. On n'y verra plus d'artisans, d'aucun métier. Le bruit de la meule s'y taira pour toujours. » Babylone subit un châtiment pire encore que ce qui est arrivé à Jérusalem et à la ville de Tyr. Contre qui ? Par la bouche du prophète Jérémie, puis Ézéchiel, l'Éternel a dit « Je ferai disparaître de chez eux tous les cris de réjouissance et d'allégresse, la voix du fiancé et de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe, et je ferai cesser le bruit de tes chansons. On ne percevra plus le son de tes cithares. » la destruction de Babylone est totale. Il ne reste rien debout et donc, on n'y voit plus la moindre activité humaine. Plus aucun son, ni musique, ni d'un artisan au travail, ni d'un animal qui fait tourner la meule. Je continue. La lumière de la lampe n'y brillera plus. Les jeunes époux et sa femme ne s'y feront plus entendre. Il n'y a plus ni âme qui vive, ni lampe éclairée, ni le son tendre de la voix de ceux qui s'aiment. Babylone est entièrement détruite et ne se relèvera plus jamais. C'est donc la confirmation de la parole d'un ange qui a dit d'une voix forte « elle est tombée, la grande Babylone, elle est devenue un antre de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et détestables. » Ce jugement est conforme aux prophéties d'Ésaïe et de Jérémie. Je lis quelques passages. Et Babylone, le joyau des royaumes, cité splendide qui faisait la fierté des Chaldéens, deviendra semblable à Sodome et à Gomorre, que Dieu a renversé, car Babylone ne sera plus jamais habitée et plus jamais peuplée dans toutes les générations. Et même les nomades n'y dresseront jamais leurs tentes, et nul berger ne s'y reposera. Les chats sauvages chercheront un abri dans ces ruines. Ces maisons seront hantées par les hiboux, les autruches, y établiront leur demeure et les boucs viendront y prendre leur ébat. Les chats sauvages s'appelleront dans ces châteaux et les chacals viendront hurler dans ces palais. Je rayerai de la terre le nom de Babylone. Oui, je supprimerai ce qui restera d'elle, sa lignée et sa descendance. L'Éternel le déclare. Ces ruines deviendront un nid de hérissons, un vaste marécage, et je la balayerai comme avec un balai qui détruit tout. L'indignation de l'Éternel en a fait une terre où tout est dévasté et où personne n'habite. Tous ceux qui passeront tout près de Babylone en seront horrifiés. Ils pousseront des cris à la vue de toutes ces plaies. Personne, plus jamais, ne s'y établira. Elle restera dépeuplée à perpétuité. Babylone sera changée en un morceau de pierre hantée par les chacals, en une terre dévastée et dont les gens se moquent ou n'habiteront plus personne. Je finis de lire le chapitre 18. Tout cela arrivera. Parce que les marchands étaient les puissants de la terre, parce qu'avec tes sortilèges, tu as trompé toutes les nations, et que chez toi, on a vu couler le sang des prophètes et de ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi que de tous ceux qu'on a égorgés sur la terre. Jean donne trois raisons pour lesquelles Babylone est sévèrement jugée et détruite. Premièrement, ces marchands sont devenus excessivement riches, ce qui leur permet de financer des campagnes électorales, c'est-à-dire de soudoyer des officiers, d'engager des barbouzes, et aussi de s'introduire dans les sphères d'influence et du pouvoir. L'argent pourri, c'est bien connu. Ceux qui ont du fric l'utilisent pour manipuler les autres et les institutions, et pour pervertir la justice. C'est bien connu, et les quotidiens nous le rappellent tous les jours. La plupart des prophètes font de sévères reproches aux riches, et surtout aux Israélites d'ailleurs. Le prophète Ésaïe leur adresse les propos cinglants suivants. Vous avez dévasté la vigne, vous avez entassé dans vos maisons ce que vous avez pris aux pauvres. Pourquoi donc écrasez-vous mon peuple et foulez-vous aux pieds la dignité du pauvre? C'est l'Éternel qui le demande, le Seigneur des armées célestes. Malheur à vous qui joignez maison à maison et ajoutez un champ à l'autre au point d'occuper tout l'espace et d'être seul dans le pays. Le prophète Amos aussi critique vertement les riches. Il dit, écoutez bien ceci. Aux vaches de Bazan qui demeurait sur les montagnes de Samarie, qui opprimait les pauvres, qui maltraitait les indigents, vous qui dites à vos maris, apportez-nous à boire. Par conséquent, puisque vous exploitez le pauvre et que vous lui prenez du blé de sa récolte, à cause de cela, les maisons en pierre de taille que vous avez bâties, vous ne les habiterez pas. Ces vignes excellentes que vous avez plantées, vous ne boirez pas leur vin. Écoutez donc ceci, vous qui volez les indigents et voulez en finir avec les pauvres du pays, oui, vous qui dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous vendions notre blé? Quand le sabbat finira-t-il pour que nous ouvrions nos magasins de grains? Nous diminuerons la mesure, nous en augmenterons le prix, en truquant les balances. Et nous achèterons le pauvre pour de l'argent et l'indigent pour un morceau de pain. Nous vendrons même jusqu'aux déchets du blé. Enfin, dans son épître, Jacques montre du doigt les riches et leur dit « Vous n'avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné votre champ. Cette injustice crie contre vous, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées célestes. Vous avez vécu ici-bas dans les plaisirs et le luxe, vous vous êtes engraissés comme des animaux pour le joug, où vous allez être égorgés. Vous avez condamné, vous avez assassiné des innocents, sans qu'ils vous résistent. » Luc rapporte que Jésus racontait une parabole menaçante pour les mauvais riches. Il a dit « Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire ? Se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah ! Se dit-il enfin. Je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrai me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit, « Pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir, et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter ? Voilà, quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu ? Babylone est jugée parce qu'elle enrichit les marchands. Deuxièmement, parce que par ses sortilèges, elle trompe les nations. Le mot pour sortilège a donné « pharmacie » et s'est dérivé en français. Mais dans le Nouveau Testament, ce mot signifie surtout la pratique de la magie et des sciences occultes. Mais ici, il s'agit également des plaisirs qui accompagnent le luxe et la débauche. L'influence et la mainmise de Babylone sur le monde proviennent bien sûr de sa puissance économique et militaire et de son rôle de capitale politique de l'Antichrist, mais aussi de son influence satanique. En troisième lieu, Babylone est détruite pour avoir massacré le peuple de Dieu. Parlant de Babylone, la mère des prostituées et des abominations de la terre, c'est-à-dire le système religieux apostat, Jean a dit « Je vis qu'elle était ivre du sang de ceux qui t'appartiennent à Dieu et de ceux qui ont rendu témoignage à Jésus. » L'Antichrist a peint son empire en rouge. Il est coupable de meurtre sur meurtre contre des multitudes, surtout les Juifs et les croyants. La liste est longue, mais il va payer pour ses crimes et la note va être salée de feu et de soufre.